affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Bonjour, bienvenue sur Canal Académie. C'est une histoire digne d'un roman policier. À Londres, Neil Stratford enquête sur un trésor aux origines mystérieuses, comme Sherlock Holmes. Pourtant, il n'est pas détective, mais conservateur émérite du British Museum. L'établissement conserve une coupe en or finement décorée, de scènes illustrant la vie de Sainte Agnès. Cet objet demeure un témoignage exceptionnel de l'effervescence artistique qui régnait en France au XIVe siècle. Il dévoile aussi d'autres secrets sur le destin diplomatique, mais aussi économique de ces pièces en métal précieux. Neil Stratford est associé de l'Académie des inscriptions et belles-lettres qui vient de publier sa monographie sur la coupe de Sainte Agnès. Bonjour.
Bonjour.
Alors pour commencer, nous allons revenir sur un événement fondateur. C'était en 1892 et cette coupe de Sainte Agnès arrivait au British Museum de Londres et cela a été un véritable événement. Pourquoi ?
C'est la fin d'une longue série de différents épisodes dans la vie de cette coupe. Le propriétaire de l'époque qui avait la coupe, le baron Pichon, nous allons revenir sur lui, avait finalement décidé de vendre la coupe hors de France. Il avait possédé la coupe à ce moment-là presque pour une décennie. Et il a décidé de la vendre parce qu'il savait très bien qu'il y avait une longue histoire aussi en Angleterre. Et l'histoire des premières années de la coupe en France n'était pas connue en ce moment-là. Donc il a vendu à un marchand de Londres qui s'appelait Wertheimer en 1892. Et la coupe est allée à Londres et Franks, Sir Augustus Wollaston Franks, qui était le premier keeper, le premier conservateur général de mon département, avait pu l'acheter de ses propres moyens.
Il avait peur de se ruiner.
Oui, et c'était pour un prix fabuleux à l'époque. C'était vraiment extraordinaire, le prix de cette coupe. C'était, je crois, 8 000 livres. Ça vaut maintenant, aujourd'hui, quelques milliards, je suppose, de livres l'équivalent.
Et il a lancé, d'ailleurs, une opération qu'on appellerait aujourd'hui de mécénat, et qui était très inédite à l'époque pour faire appel à des souscripteurs qui allaient acheter cette coupe pour le British Museum.
Exact. En Angleterre, au moins, c'était exceptionnel. Je crois que c'était peut-être la première fois qu'on a fait une souscription publique. Franks avait des moyens, mais il a dit, et je trouve que c'est un peu touchant, dans une correspondance avec un ami, il dit « J'ai payé de mes propres moyens, mais si je ne peux pas récupérer un peu de cet argent, je ne peux plus acheter les choses pour le British Museum, moi-même. » Donc il était vraiment un homme de moyens. Mais il avait vu l'importance de la coupe pour l'histoire d'Angleterre, dans le trésor royal d'Angleterre.
Alors, cette coupe a été achetée une fortune. On en parle beaucoup dans les journaux. Les érudits se renseignent sur son histoire depuis quelques années. À quoi ressemble-t-elle ? Est-ce que vous pourriez nous la décrire, nous qui n'avons pas son image sous les yeux ?
Ah, oui. C'est un objet qui mesure à peu près cette hauteur-là. Qu'est-ce que vous croyez que je fais ?
Une petite statuette ?
Oui. Et il est en or massif, de 24 carats, presque pur. La coupe elle-même et la couverture sont d'une forme aplatie. Puis il y a une tige et un pied. La tige a été visiblement rajoutée en une époque postérieure. Nous allons voir ça. les deux parties du XIVe siècle, je crois, qui sont les parties originales de la coupe, sont émaillées avec la technique qu'on décrit toujours d'après les termes français, un émail en basse taille.
Qu'est-ce que ça veut dire?
C'est-à-dire que l'or est martelé en très minces plaques, puis découpé pour la forme, puis l'orfèvre, très délicatement, prend son ciseau et il travaille avec des profondeurs extrêmement légères pour créer des champs dans la surface de l'or. Et puis, il décore les fonds de ces champs et il commence le procès de l'émaillage. L'émail, c'est du verre. C'est du verre qui coule à une température vers 900 degrés et qui s'attache à la surface du métal. La subtilité de la technique de la coupe réside dans le fait que cet émaillage, ce champ levé, comme on dit, des surfaces de la coupe, les profondeurs du découpage varient très subtilement. Donc, on peut employer la même couleur, par exemple un vert pour les arbres. On peut l'employer le même vert pour achever un effet du vert profond, presque noir, et du vert translucide, extrêmement brillant, dans le même vert, parce que, en partie, les champs varient tellement dans la profondeur. Et la translucidité vient de l'effet de l'or à travers les verts qui sont mis au four.
Et qui sont parfois transparents. Il y a donc une riche palette de couleurs particulièrement intéressante pour cette coupe.
Très intense, avec de superbes bleus qui sont un peu détériorés avec les siècles. Les bleus et quelques verts ne sont pas en parfait état, tandis que les autres couleurs, les jaunes, les blancs, etc., sont en parfait état, et surtout le rouge.
Ah, et c'est important, le rouge.
Le rouge était extrêmement important à l'époque, parce que nous disposons au 14e, même avant, mais au 14e et 15e, des inventaires, des collections des princes, des rois, etc. Et dans ces inventaires de l'époque, on voit toujours préciser, bon, pas toujours, mais de temps en temps, dans la liste, il y a un objet en émail, et c'est précisé à rouge clair. À rouge clair, c'est-à-dire un rouge translucide, qui est créé par l'orfèvre, par une technique très spéciale. C'est une invention du XIVe siècle des orfèvres parisiens. Et la beauté était si éclatante que c'est précisé dans les inventaires. Et cet effet, nous avons une description du grand orfèvre italien Benvenuto Cellini, qui nous a laissé un traité sur l'orfèvrerie. Et il précise que pour arriver à cet effet du rouge clair, parce que pour les émaux, il fallait passer les objets souvent plusieurs fois dans le four. Mais pour une dernière fois, si on voudrait achever avec le rouge une translucidité, il fallait passer une dernière fois à basse température, finalement, mais avec un verre qui est non seulement de potasse, de silice, plus ou moins la moitié, mais aussi beaucoup de cuivre qui donne ce rouge éclatant. Et avec ce dernier passage dans le four, on arrive au rouge clair.
C'est donc un véritable travail de chimiste et vous nous avez donné un indice en parlant d'orfèvres parisiens. Paris, à l'époque, était une capitale importante pour les orfèvres?
Oh, tout à fait, le sommet. Oui, le sommet des arts, du métal de la période en question. Aussi, la Toscane aussi était très, très importante à l'époque.
Et alors, cette pièce apparaît exceptionnelle, même pour l'époque. Ce type de pièce en or et émaux était-elle relativement rare? On est vraiment dans une pièce princière.
Oui, parce que très peu de choses sont survécues. Il faut comprendre que nous avons maintenant, si on reçoit un héritage de famille, par exemple, on dispose de l'argent, on le met dans la banque, on investit dans les actions. Tandis qu'au Moyen-Âge, en grande partie, les grands investisseurs, ils ont investi dans les objets en or, etc., qui est une sorte de capital, si je peux dire. Et si il y a la guerre, par exemple, et il fallait payer les troupes, on a souvent passé les objets en or aux banquiers, etc., pour payer l'armée. Donc c'était un capital, si je peux dire. Donc très, très peu d'objets de cette allure, de cette importance, sont venus jusqu'à nous. Très, très peu.
Très peu ont été conservés. Alors nous allons peut-être revenir aux origines de cette coupe. Le commanditaire, finalement, est resté inconnu. Nous avions oublié son nom pendant des siècles. Même au moment où vous le dites, où cette coupe est arrivée au British Museum, nous ignorions encore qui avait passé commande de cet objet extraordinaire. Mais la réponse n'a pas tardé à arriver. C'était un Français, le duc Jean de Berry.
Semble-t-il. C'était le grand érudit des années 1880-90 en France, Léopold de Lille, à la Bibliothèque nationale, qui a tombé, je ne dirais pas par hasard, mais presque par hasard, sur un inventaire perdu qui a été copié de la règne de Charles VI. Et dans une entrée, il dit qu'en 1391, dans le voyage de Touraine, il y avait des négociations pendant la guerre de Cent Ans entre le roi de France et le duc de Bretagne pour la frontière avec la Bretagne, etc. Charles VI était à Tours et semble-t-il, Jean de Berry, sa présence a été demandée par le roi pour les négociations. Il était l'oncle de Charles VI. Et il dit dans l'entrée de l'inventaire que la coupe a été donnée par Jean de Berry au roi pendant le voyage de Touraine. Donc c'était un cadeau diplomatique en 1391. Mais, on ne sait pas si c'était créé par Jean de Berry pour Charles VI ou plutôt, et c'est une hypothèse que j'ai adoptée, il y avait des auteurs dans le passé, de Lille aussi, qui a pensé que ça pourrait plutôt être conçu au début comme un cadeau pour le père de Charles VI, Charles V, parce que l'imagerie de la coupe se concentre sur la vie plus ou moins légendaire, pas totalement légendaire, du jeune vierge martyr, Sainte Agnès.
Alors, quel est le lien entre le roi et Sainte Agnès?
C'est-à-dire que c'est Franks au British Museum qui a alerté du fait que Charles V a été né le jour de la fête de Sainte Agnès. Et quand...
Le 21 janvier.
Oui, le 21 janvier. De Lille a donc publié un article, je crois en 1908 ou quelque chose comme ça, dans le journal des savants, en faisant la liste de beaucoup d'objets qui étaient dans la possession de Charles V, déjà, qui avait une image de Sainte Agnès, probablement des dons de la cour au roi le jour de son anniversaire.
Et Sainte Agnès est aussi une sainte particulièrement... fameuse, vénérée dans ces siècles de la fin du Moyen-Âge.
Tout à fait. C'était un nom de famille des Capétiens et des Valois. Plusieurs filles ont été surnommées Agnès. Donc le culte de Sainte Agnès était très diffusé en Europe. Ce n'est pas simplement à Paris ou chez les Valois qu'on a eu une dévotion particulière vers cette jeune vierge martyre. C'était un martyr. On ne sait pas exactement quelles circonstances historiques, probablement dans une persécution à Rome sous Dioclétien. Ça, c'est une des théories vers 400. Puis son culte se développe, les reliques trouvées dans les catacombes, etc., sont diffusées un peu partout en Europe. Donc c'était un culte très populaire.
Alors certaines scènes de la légende de Sainte Agnès figurent sur cette coupe. Qu'est-ce que vous pouvez dire de ces personnages, de la façon dont ils sont traités, des épisodes qui ont été retenus aussi?
C'est plus ou moins un choix typique. Nous n'avons pas beaucoup de cycles de Sainte Agnès qui sont venus jusqu'à nous. Pas beaucoup. Mais nous avons des vies, des vitae écrites, où la vie de la jeune fille est racontée. Et l'orfèvre de Charles V, je crois, il a choisi quelques scènes. Par exemple, le cycle sur la coupe émaillée débute avec une scène. La jeune fille, elle est allée aux écoles et en revenant, elle a rencontré le fils du prévôt urbain. Ce jeune homme a tombé amoureux de la belle jeune fille et il propose un mariage en présentant un coffret de bijoux qui sont superbement émaillés, avec le fond du coffret, c'est dans un blanc intense, et les bijoux minuscules sont émaillés dans les verres rouges et bleus, etc., dans ce coffret.
L'orfèvre était à son affaire avec des bijoux.
Oui, donc c'est une offre, et elle refuse, parce qu'elle était déjà convertie à la foi chrétienne, et elle dit « Non, je ne peux pas vous épouser parce que je suis déjà l'épouse d'un autre. » L'autre, c'est Jésus-Christ, bien sûr. Donc, pour le Moyen-Âge, elle était parmi les saintes qui étaient associées particulièrement avec la chasteté, la pureté, etc.
Et alors, cette coupe qui est illustrée de scènes religieuses avait probablement un usage profane. Comment l'expliquer?
Oui, c'est mystérieux parce que on a non seulement les scènes de la vie de Sainte Agnès, aussi nous avons les quatre symboles des quatre évangélistes sur le pied, et à l'intérieur, on a aussi un médaillon avec le Christ tenant ce qui paraît un calice. Et dans le calice, on voit très bien l'hostie. Donc c'est profondément eucharistique, cette image. Alors comment expliquer ça? Parce que c'est toujours décrit dans les premiers inventaires comme un hanap, H-A-N-A-P, qui est le mot employé à l'époque pour un certain type de coupe séculier, employé dans les banquets. Et il faut comprendre que nous ne sommes pas au XIVe siècle, que la conception de la vie n'était pas la nôtre, que la frontière mentale, si je peux dire, entre le sacré et le profane n'était pas très précise. Les deux vivaient ensemble, si je m'explique mal, excusez-moi. Mais... Et puis, il faut comprendre que dans les grands banquets, nous avons des descriptions des banquets où les rois, les princes, etc., ont célébré une fête ou une victoire ou je ne sais pas quoi. Ces célébrations n'étaient pas très simplement des banquets fastueux avec une gourmandise terrible, etc. Il y avait aussi un côté, et on voit ça depuis des sources, un côté comportement. Il fallait avoir une sorte de comportement correct. Dans ces grandes célébrations, il ne faut pas parler de n'importe quoi. Il fallait vraiment se comporter correctement. Donc, j'imagine, c'est une pure spéculation, mais je peux imaginer Charles V ou son fils à table, entouré de la cour de France, etc., avec devant lui la coupe de Sainte Agnès, et que, à un certain moment, le couvercle a été enlevé et tout le monde a très respectueusement regardé la coupe qui a pu être peut-être passée de main en main ou je ne sais pas quoi. Peut-être on a bu de la coupe. Ça, nous ne savons pas.
Nous sommes en tout cas dans le milieu royal, ce qui dit quelque chose du caractère vraiment exceptionnel de cet objet. Cet objet est donc côté français et d'une façon mystérieuse, nous ne savons pas vraiment comment, il passe en Angleterre. Dans quelles mains passe-t-il ?
Ah oui, ça c'était la deuxième grande découverte. C'était un archiviste anglais qui s'appelait William Page et qui était un grand, grand archiviste. Et il a tombé sur une description de la coupe en 1434. Il faut comprendre que la dernière mention à Paris de la coupe, après 1391, il y a aussi une mention dans l'inventaire royal en 1400, quand la coupe était à la Bastille. Puis, silence. Mais en 1434, la coupe réapparaît à Londres, dans la grande collection de Jean, duc de Bedford.
Qui est cet homme ?
Alors, Bedford était un très grand guerrier, un très grand diplomate. Il était régent de France pendant un certain temps pour le très jeune, très très jeune roi Henri VI, qui a été couronné à Paris, etc. Roi de France, il ne faut pas entrer ici dans les
Nous
détails
de la guerre
de 100 ans, exactement, c'est comme ça. Alors Bedford était régent de France, et il était très amateur des arts. On sait par exemple qu'il a pu acheter une grande partie de la grande bibliothèque du Louvre, de la librairie du Louvre, qui est passée en Angleterre, mais mystère total, comment Bedford a mis la main sur la coupe, probablement à Paris, si c'était en rançon, si c'était en cadeau, s'il l'a acheté, on ne sait rien. Mais en 1434, la coupe se trouvait à Londres. Et à la suite de cette mention, la coupe a passé dans la possession des rois d'Angleterre, depuis Henri VI, dans les années 1440, pour presque 150 ans. Il était toujours cité dans les listes de l'argenterie royale, du trésor des rois d'Angleterre.
Et il va se passer un événement, peut-être qui aurait pu causer sa disparition, parce que cette coupe va être placée en gage par les rois d'Angleterre qui ont besoin d'argent pour poursuivre la guerre. Ça montre aussi, pendant quelques années, ça montre aussi la fragilité de ce type d'objet, le fait qu'il puisse disparaître, être peut-être fondu très, très facilement.
Oui, c'est un miracle que nous avons ce coup. Elle a été mise en cage pour une expédition de la guerre de 100 ans par les Anglais en Gascogne, par exemple. Mais miraculeusement, il n'a pas été fondu. Et puis, à la fin du XVIe siècle, après 20 ans de guerre entre l'Espagne et l'Angleterre, la couronne d'Angleterre a passé aux Stuarts, après les Tudors. Et en Espagne, Philippe II est mort et son fils Philippe III a voulu un traité de paix avec les Anglais. Et il a envoyé, Philippe III, il a envoyé une commission d'ambassadeurs à Londres pour négocier un traité de paix avec les Anglais. Et c'était un grand événement. Il y avait cinq ambassadeurs espagnols et 6 commissaires anglais qui se sont assemblés à Somerset House, à Londres, dans un cabinet. Nous avons une très célèbre peinture, un très grand tableau, qui est actuellement à la National Portrait Gallery de Londres, qui montre les commissaires à table, à Somerset House pendant les discussions qui préparent le traité de paix. Il y avait des discussions, des arguments. Ce n'est pas totalement divorcé des événements du Brexit, par exemple.
Les pourparlers qui durent des mois.
Oui, des mois de négociations, etc. Et puis, finalement, ils ont pu signer et sceller le traité de paix, après beaucoup de difficultés, etc. Mais pendant toutes les négociations, on a fait des cadeaux diplomatiques. On a donné des anneaux à diamants, un magnifique cheval espagnol a été présenté par le roi d'Espagne au jeune prince Henri, qui était le prince de Galles, successeur prévu du roi Jacques Ier. Nous sommes en 1604. Et d'autres cadeaux, de très beaux bijoux, de l'argenterie, etc. Et quand on a recherché l'histoire de la coupe à la suite de son achat à Paris, nous allons venir à ça, on a pu trouver un journal publié par un duc espagnol en 1604. Précisément. Ce duc était le premier en tête de la commission espagnole à Londres. Et il s'appelait Juan Fernando Velasco, duc de Frias et comte d'Haro. Et il était un très grand diplomate, un très grand militaire. Et il a publié son journal à la suite des négociations. Et ce journal a été imprimé en très peu de copies à Anvers, à Valladolid, en Espagne, à Milan. Mais c'était un peu diffusé. Et dans ce journal, il décrit, le duc, que, après la signature du traité de paix, l'après-midi est venu le sénéchal, il dit, avec un gros cadeau d'argenterie, doré, de coupe, de custode, etc. Et parmi eux, une très vieille coupe en or massif avec des images des saints. Et c'est notre coupe.
Cela nous dit quelque chose.
Oui. Et on sait que c'est notre coupe. Parce que quand la coupe est partie avec le duc de Londres, il l'a ramenée en Espagne. Et il a fait ajouter à la tige de la coupe, il a fait ajouter une inscription en latin avec une très, très belle inscription en émail qui dit que cette coupe de très grande valeur a été en mémoire de la traité de paix que Juan Velasco, duc de Frias, a pu réalisé à Londres grâce au roi, et que cette coupe faisait partie du trésor des prédécesseurs de Jacques Ier d'Angleterre et faisait partie de l'ancien trésor royal d'Angleterre. Et cette inscription était sur la tige en latin.
Et cette inscription est accompagnée de rameaux d'olivier pour rappeler les...
Qui sont d'une beauté. J'adore ces feuilles d'olivier en vert translucide. C'est magnifique.
Il rappelle donc les bienfaits de la paix à laquelle a contribué ce Velasco.
Oui, ce Velasco.
Est-ce que vous pensez que le passage de la dynastie des Tudors à la dynastie des Stuart a peut-être rendu plus facile le fait de se séparer de cette coupe très ancienne, peut-être emblématique des collections royales?
Je me suis demandé, je n'ai pas parlé de ça dans le livre, mais bien sûr, j'ai posé cette question. Mais il n'y a aucune évidence. On n'a pas la moindre évidence pour ça. Mais peut-être qu'il a pensé que c'était un peu vieux jeu. Cet objet était un peu dépassé maintenant. Parce que le goût de la cour Stuart était très, très différent. Ils aimaient les diamants, la brillance. l'éclat des bijoux, les choses comme ça. Donc c'était peut-être un peu moins à la mode, si je peux dire.
Un peu mat.
Oui, oui, oui.
Alors, nous avons suivi cette coupe en France, elle est passée en Angleterre, la voici en Espagne,
oui.
Et elle va arriver dans un monastère et pour la première fois rejoindre un lieu religieux. Pour quelle raison ?
Parce que le duc Fernando, il était très pieux et il y avait un panthéon familial chez les Clarisses d'une ville, Médina de Pomar, qui est à peu près 70 kilomètres, si je me souviens bien, au nord de Burgos, où je suis allé, bien sûr, pour voir les lieux, etc. Mais donc, en 1610, 6 ans après qu'il a remporté la coupe en Espagne, Velasco a décidé de faire un don de reliques, de reliquaires, et parmi eux, la coupe aux Clarisses de Médina de Pomar. Et nous avons l'acte de la donation, et c'est très très clair dans cet acte de donation qu'il a insisté que le don soit inaliénable, en perpétuité. Que les successeurs de l'abbesse en question, qui était sa sœur à l'époque, que les successeurs ne peuvent jamais vendre ou se séparer des reliquaires.
C'est important parce qu'on se doute bien que l'avenir en a décidé autrement, puisque cette coupe n'est plus là-bas.
C'est ça, exactement. Comme je suppose beaucoup de monastères de l'époque, vers la fin du 19e siècle, il n'y avait pas de moyens. Je suppose que l'abbesse de l'époque a regardé un tout petit peu, elle a vu que ça peut être un objet précieux, la coupe. Elle l'a donné à un prêtre espagnol qui s'appelait Simon Compo pour la vente en 1883. En lui disant qu'il faut aller à Paris, parce que Paris, c'était le centre du marché des objets d'art à l'époque. Et elle a pensé qu'elle va avoir un bon prix à Paris. Compo a passé par le bateau de Bilbao à Bordeaux, où il a rencontré, sur le quai de la gare, un Espagnol qui s'appelait Bermejo, qui était un capitaine du militaire carliste et marchand de vin à Paris. Et Bermejo a adopté un tout petit peu Compo pour lui donner une aide. Ils ont monté dans le train, ils sont venus à Paris. Bermejo a trouvé un hôtel sur l'île Saint-Louis et Compo a commencé d'essayer de vendre la coupe.
Tous les grands collectionneurs de l'époque viennent.
C'est ça.
Le duc d'Aumale.
C'est-à-dire que Sombra. Non, ils ne sont pas venus, non. C'est Compo qui a pris la coupe chez eux, bien sûr. Il est allé chez Rothschild, il est allé à l'hôtel du duc d'Aumale, qui était le plus riche français de l'époque. Puis les grands collectionneurs, le prince Czartoryski, le polonais, le comte Soldikov, le comte Basilewski. Alexandre Basilewski, avec une grande collection d'ivoires gothiques, d'émaux, limousins, etc. Puis aussi les gens des musées. Il l'a montré à Darcel et du Sommera, au musée de Cluny. Et c'est extraordinaire parce que la beauté éclatante de cet objet, ils étaient tous très suspicieux.
Alors, comment l'expliquer, cette idée que c'était peut-être un faux ?
C'est facile maintenant pour nous à juger. Nous ne sommes pas dans les années 80 du 19e siècle. Mais Paris était un lieu absolument submergé de marchands, de curiosités, de choses comme ça. Et tout le monde craignait les faux. il y avait beaucoup de faux dans le marché. Il y avait des fabricants de faux. On sait, par exemple, les recherches de Madame Gabory au Louvre récemment, de Madame Antoine au Louvre et de Madame Biron, qui ont prouvé qu'il y a beaucoup de démos limousins qui sont faux et qui sont très probablement de cette époque. Donc, c'était très, très difficile à reconnaître les faux. Donc, d'un certain point de vue, c'est facile à juger ces gens en disant qu'ils étaient incompétents, etc. Je ne crois pas. Je crois que c'était vraiment presque naturel, si je peux dire. En revanche, c'est le héros de l'histoire de la coupe, un collectionneur qui habitait son hôtel particulier, l'hôtel de Lausanne, sur l'île Saint-Louis, quai d'Anjou, le baron Pichon, qui était un collectionneur connu de l'époque, mais pas vraiment pour les émaux, c'était plutôt
les livres.
Il était grand bibliophile, il était président de la société des bibliophiles François, on disait à l'époque, et il était très connu, il a collectionné les sceaux, les camées, les bagues, etc. Et il avait aussi une argenterie française. Et Compo est venu avec la coupe à l'hôtel de Lausanne. Et Pichon l'a vu et il l'aimait beaucoup. Il était vraiment absolument passionné dès le début par cet objet. Et je l'admire beaucoup pour ça, parce que c'était absolument contre l'opinion de tout le monde à Paris à cette époque. Et tout le monde a dit, c'est un faux, c'est pas possible, c'est trop parfait. On ne peut pas imaginer qu'un objet de telle allure pourrait avoir survécu sans être connu, etc. Et puis Pichon, non. Il a dit, ah, je ne comprends pas très bien les émaux. Je suis un peu innocent dans ce domaine, mais quand même, j'adore cette coupe et je vais l'acheter. Contre les avis de tous mes amis, je vais l'acheter. Et il l'a acheté le 15 octobre 1883. Et ensuite, il a lancé les recherches sur l'histoire du couple. Il a pu lire l'inscription dont j'ai déjà fait mention en latin qui parlait du duc de Friaste, de la traité de paix de Londres, des rois d'Angleterre, etc. Il a lancé donc une enquête avec les spécialistes. Par exemple, en Angleterre, il y avait un Espagnol, Pascual de Gallegos, qui recherchait les manuscrits espagnols au British Museum à l'époque. Et c'est lui qui a pu guider Pichon vers le journal du duc, publié en 1604. C'était lui qui a... Et puis, on a de plus en plus retrouvé les traces en Angleterre de cette coupe. Et donc, l'authenticité était prouvée. Il n'y avait pas de doute. Il y a beaucoup de documents sur cette partie de l'histoire de la coupe, dont la bibliothèque de l'hôtel de ville de Paris, où j'ai passé quelques temps. Il y a un courrier personnel très, très émouvant, je trouve, du comte Alexandre Basilevski, le grand collectionneur russe. Il était parmi eux qui ont dit que c'était un faux. Et puis il écrit, et c'est très émouvant, il a écrit combien il est heureux d'être trompé. Il n'avait jamais été si heureux d'avoir trompé dans un jugement. Il est si content pour Pichon qu'il a pu acheter cette merveille. C'est ça, oui.
Alors, nous revenons presque au point duquel nous étions partis en 1892, cette coupe qui arrive au British Museum. Oui. Pourquoi Pichon, qui adorait cet objet, s'en est-il séparé?
Ça, c'est, je ne sais pas. Il est mort presque immédiatement après. Est-ce que sa santé ne faisait pas très bien? Franks aussi, qui l'a acheté, il est mort presque 2 ou 3 ans après. J'ai oublié exactement quand. Mais aussi, je crois que Pichon pensait qu'avec l'histoire anglaise de la coupe, c'était très bien si la coupe soit au British Museum, parce qu'il était ami de Franks, il connaissait Franks depuis quelques années. Il était le grand conservateur du musée de son époque, donc il était très très connu.
Alors, durant toutes ces années, de nombreuses recherches, nous le comprenons en vous écoutant, sont menées autour de cette coupe, beaucoup de découvertes sur son histoire. Il y a une abondante production, des correspondances privées, une monographie paraît également au début du XXe siècle, et puis, pendant des décennies, plus rien. Ou beaucoup moins peut-être.
Oui, beaucoup moins.
Et vous reprenez ce travail. Qu'est-ce qui vous a intéressé? Peut-être quelle découverte le 21e siècle apporte-t-il?
C'est-à-dire que nous vivons donc un autre siècle. Nous avons eu la possibilité de regarder par le laboratoire la création de la coupe. On a analysé les verres, on a analysé l'or, on a pu prendre des très belles images à travers le microscope. Des détails fabuleux de la qualité de l'orfèvre. Mais aussi, on a maintenant des perspectives un peu différentes. Il faut situer un objet comme ça dans l'histoire de l'art. Pourquoi Sainte-Agnès? Le culte de Sainte-Agnès? Stylistiquement, l'orfèvre, ce grand orfèvre, dont nous ne connaissons pas le nom, je suppose que c'était un orfèvre royal. Mais aussi, on a donc d'autres perspectives. Par exemple, nous avons parlé un tout petit peu ici de l'étiquette, des banquets, des choses comme ça.
Et vous,
donc j'ai pensé qu'il fallait reprendre l'histoire de la coupe.
Et vous, quelle découverte vous tient particulièrement à cœur?
Oh, je ne sais pas, je suppose vraiment, c'est peut-être l'étude de la technique, les minuscules détails du laboratoire. Ça, c'est la contribution majeure de cette petite monographie.
Et pour finir, aujourd'hui, nos auditeurs qui veulent voir cette coupe doivent aller au British Museum. Où se trouve-t-elle exactement?
Elle est présentée en star, si je peux dire, en entrant dans la salle médiévale du British Museum au premier étage. Presque le premier objet devant vous, en entrant, c'est ce qu'en anglais, en Angleterre, on a toujours appelé le Royal Gold Cup. Il est là, il est présenté dans une vitrine à part. On peut circuler autour, on peut lire les étiquettes, mais aussi on peut regarder les inscriptions qui sont sur la coupe, qui parlent de Sainte-Agnès, de sa liturgie. Et puis voilà, la coupe est présentée dans toute sa splendeur, oui.
Eh bien, avant d'aller au British Museum, nos auditeurs pourront donc lire la monographie que vous, Neil Stratford, venez de consacrer à cette coupe de Sainte-Agnès. C'est donc une édition de l'Académie des inscriptions et belles-lettres dont vous faites partie. La coupe de Sainte-Agnès, France, Espagne, Angleterre. C'est donc une histoire européenne. Un grand merci, Neil Stratford.
Oh, merci beaucoup.
Et à bientôt.
Merci.